Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Neurodiscipline » de Robert Mercier est un guide bref de développement personnel consacré aux liens entre fonctionnement cérébral, procrastination, impulsivité et formation des habitudes. Publié en français et présenté comme un ouvrage de biohacking et de neurosciences, il cherche à rendre la discipline plus concrète en la décrivant comme une compétence entraînable plutôt que comme un simple trait de caractère. Son point de départ est volontairement direct, une partie des tendances spontanées du cerveau favorise la recherche du confort immédiat, la distraction et le report des efforts. Le livre propose donc de comprendre ces mécanismes afin de mieux organiser ses comportements quotidiens. Il associe explications vulgarisées, conseils, exercices et techniques applicables à la productivité comme aux habitudes de santé. Avec environ 120 pages selon les éditions numériques, il privilégie la concision et une lecture d'initiation. Sa promesse centrale consiste moins à fournir une théorie neuve de la volonté qu'à traduire des idées issues de la psychologie comportementale et des neurosciences en levier pratique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la discipline présentée comme une capacité à entraîner plutôt qu'un don personnel, le livre défend une vision non fataliste de la discipline. Au lieu de réduire les difficultés de concentration ou de régularité à un manque de caractère, il les rattache à des tendances ordinaires du fonctionnement humain, éviter les coups immédiats, rechercher une gratification rapide et préserver son énergie. Cette approche a une conséquence pratique importante. Si le problème ne relève pas seulement de la morale individuelle, la réponse ne peut pas se limiter à se reprocher un écart ou à exiger davantage de volonté. Elle suppose de mettre en place des conditions qui rendent le comportement souhaité plus simple à accomplir et plus facile à répéter. Mercier présente ainsi la force de volonté comme une faculté susceptible de progresser au moyen de pratiques régulières. La logique est cohérente avec le format du livre, les explications servent à justifier des actions concrètes, des exercices et des ajustements de routine. Le lecteur est invité à observer les moments où il cède au report, puis à intervenir sur ce qui précède ce report. Cette perspective peut aider les débutants, car elle remplace une identité figée, telle que personne indisciplinée, par une question opérationnelle, quelles conditions déclenchent le comportement indésirable, et quelles conditions peuvent soutenir une réponse plus utile. Le livre vise donc un apprentissage comportemental progressif, orienté vers la répétition plutôt que vers les résolutions spectaculaires. Deuxièmement, procrastination et impulsivité envisagées comme des réponses au court terme, la procrastination occupe une place centrale dans la présentation de neurodiscipline. Le livre la relie à une préférence spontanée pour le soulagement et le plaisir accessible maintenant, alors que les bénéfices du travail, de la santé ou de la planification restent lointains. Cette opposition entre coût présent et résultat futur explique pourquoi connaître une bonne décision ne garantit pas son exécution. Une tâche exigeante peut produire fatigue, incertitude ou ennui, tandis que la distraction procure une récompense immédiate. Le lecteur doit donc regarder au-delà de la seule intention. L'enjeu devient la gestion des signaux, des émotions et des occasions qui orientent le choix dans les minutes décisives. Cette manière de cadrer le problème est utile car elle évite de traiter chaque écart comme une faute isolée. Elle conduit plutôt à analyser les situations répétitives, disponibilité permanente des écrans, absence de plan précis, objectifs trop vagues ou environnement favorable aux interruptions. Le livre propose des outils issus du biohacking et de la vulgarisation neuroscientifique pour réduire cette friction. Son apport réside dans le rapprochement entre une difficulté quotidienne très reconnaissable et une explication centrée sur la compétition entre l'effort différé et la récompense immédiate. Toutefois, cette grille doit être reçue comme un outil de compréhension pratique, non comme une explication complète de toutes les formes de procrastination qui peuvent aussi dépendre de contraintes sociales, émotionnelles ou médicales. Troisièmement, travailler avec les impératifs du cerveau plutôt que compter sur la contrainte seule. Une idée récurrente dans la description du livre est la nécessité de travailler avec le cerveau. Mercier décrit celui-ci comme peu naturellement orienté vers des objectifs abstraits et lointains, ce qui peut donner au texte un ton de confrontation. Pourtant, la logique pratique annoncée consiste surtout à reconnaître les impératifs de confort, de sécurité, de récompense et de conservation de l'effort afin de ne pas construire des méthodes contraires à ces tendances. Cette nuance est déterminante. Opposer frontalement une volonté rigide à chaque envie peut être difficile à maintenir, tandis que modifier les conditions de choix rend une conduite souhaitée plus probable sans exiger une lutte constante. Dans ce cadre, le biohacking désigne moins une transformation spectaculaire du cerveau qu'une recherche de réglage personnel, structurer le contexte, limiter les sollicitations et relier une action à des conséquences perceptibles. Le livre cherche donc à déplacer le centre de gravité de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir être productif. Il faut aménager une situation dans laquelle commencer poursuivre et recommencer deviennent plus plausibles. Certains lecteurs ont relevé que la rhétorique du cerveau comme obstacle pouvait sembler excessive. Cette réserve est valable, car le cerveau ne constitue pas un adversaire distinct de la personne. Néanmoins, compris avec prudence, le principe invite à remplacer le conflit intérieur par une meilleure conception des routines et des environnements. Quatrièmement, la construction de routines positives par des exercices et des leviers applicables, neurodiscipline se présente comme un manuel orienté vers la mise en pratique. Les sources disponibles indiquent la présence de conseils, informations, astuces et exercices inspirés de travaux de biohacking et de neurosciences. Cette orientation correspond à son ambition de transformer des connaissances générales sur les habitudes en décisions quotidiennes. Une habitude positive ne dépend pas uniquement de la compréhension intellectuelle de ses avantages. Elle demande une répétition dans un contexte identifiable, ainsi qu'une réduction des obstacles qui rendent le comportement coûteux au moment de le réaliser. Le livre traite cette question dans une perspective de discipline, de productivité et de lutte contre la distraction. Son lecteur type cherche moins une étude universitaire exhaustive qu'un ensemble de points de repère pour passer de l'intention à une routine. La valeur potentielle des exercices est de créer une boucle d'observation, repérer un comportement, identifier les circonstances qui le favorisent, tester un ajustement, puis constater si la répétition devient plus stable. Cette démarche rend la notion de volonté plus mesurable dans la vie courante. La brièveté du volume implique cependant que les méthodes sont probablement présentées sous une forme synthétique. Elles gagnent à être adaptées à un objectif précis et à être évaluées avec honnêteté, plutôt qu'appliquées comme des recettes universelles. Le livre est donc particulièrement utile comme point de départ pratique, à compléter si le lecteur souhaite une analyse approfondie des mécanismes d'habitude. En dernier lieu, une vulgarisation neuroscientifique concise dont les limites demandent un regard critique. Le positionnement de neurodiscipline repose sur une vulgarisation accessible. Des lecteurs apprécient une présentation directe, sans surcharge informationnelle, qui apporte un arrière-plan neurologique aux problèmes de discipline et fournit des outils faciles à tester. Cette concision constitue son principal avantage comparatif pour un public novice. Elle donne rapidement un vocabulaire pour penser distraction, impulsivité, habitude et effort. Le livre ne semble pas chercher à rivaliser avec un traité de neurosciences ni avec une synthèse académique complète. Cette limite impose aussi une lecture critique. Le mot neuroscience peut suggérer un degré de certitude supérieur à celui que permettent des conseils de développement personnel, surtout lorsque les mécanismes cérébraux sont simplifiés pour devenir actionnables. Une critique de lecteur relève notamment une affirmation biologique contestable et un ton qui ferait du cerveau un ennemi. Ces remarques rappellent que la métaphore de la lutte peut éclairer une tension entre objectif et automatisme, mais ne doit pas devenir une description littérale de la biologie humaine. D'autres avis estiment que les idées manquent parfois de nouveauté face aux références plus développées sur les habitudes. Le meilleur usage du livre consiste donc à le considérer comme une introduction condensée. Ces propositions peuvent déclencher une expérimentation personnelle, mais les affirmations scientifiques et les stratégies proposées méritent vérification, contextualisation et adaptation aux besoins réels du lecteur. En conclusion, neurodiscipline convient avant tout aux lecteurs francophones qui cherchent une première synthèse courte sur la procrastination, la distraction, les habitudes et la discipline personnelle. Il peut être utile à une personne qui comprend déjà ce qu'elle devrait faire, mais qui souhaite analyser pourquoi elle ne le fait pas de manière régulière. Son bénéfice pratique réside dans le changement de perspective. Au lieu de tout attribuer à un défaut de volonté, le lecteur est encouragé à examiner les automatismes, les récompenses immédiates et les conditions qui influencent ses choix. Les conseils et exercices annoncés peuvent servir de base pour tester des ajustements de routine et mieux structurer un environnement de travail ou de santé. Sur le plan intellectuel, le livre offre une porte d'entrée accessible vers des thèmes souvent associés aux neurosciences et au biohacking, sans imposer un volume important de lecture. Ce qui le distingue dans sa catégorie est précisément cette combinaison de formats compacts, de langage direct et de cadrage cérébral de la discipline. Il ne paraît toutefois ni assez approfondi ni assez original pour remplacer des ouvrages de référence sur les habitudes ou la psychologie comportementale, certaines formulations très antagonistes envers le cerveau. Ainsi que la nécessité de garder un regard attentif sur les simplifications scientifiques invite à la prudence. Lu comme un guide introductif et non comme une autorité scientifique définitive, il peut fournir des repères concrets et une impulsion utile pour passer de l'intention à des comportements plus réguliers. Si vous souhaitez soutenir Robert Mercier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.